Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons poursuivre notre méditation sur les vertus de Joseph, mais si nous voulons bien comprendre cela, il faut tout d'abord que nous voyions que Joseph est la figure du Messie. Non pas la figure comme Isaac le fut lors de son sacrifice par Abraham, non pas comme Moïse le fut en traversant la mer Rouge. Il fut une figure du Messie parce que, par avance, il lui ressembla, sous l'influence du Saint-Esprit, bien entendu. Joseph, qui vient d'être vendu par ses frères, est réduit en esclavage dans la maison de Putiphar, et l'Écriture sainte nous dit qu'il se donna tout entier au service de son maître. La Genèse nous précise que le Seigneur était avec lui et que Joseph reçut de son maître l'autorité sur toute sa maison. Il la gouvernait avec tout ce qui lui avait été mis entre les mains. Le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et y multiplia tout son bien. Puis, la femme de son maître cherche à coucher avec Joseph, qui refuse, bien évidemment, par fidélité à son maître. Elle insiste, elle finit par l'agripper par son manteau, et Joseph laisse le manteau entre les mains de cette femme et s'échappe ainsi. Bien sûr, la femme est furieuse d'avoir été rejetée, elle calomnie Joseph auprès de son mari Putiphar, et celui-ci, très en colère, jette Joseph en prison. Là, Dieu est encore avec Joseph, c'est-à-dire que Joseph a tellement brillé comme la première fois, par sa vertu, par sa bonté, par son intelligence, par son attention aux autres, que, comme ce fut le cas pour Putiphar, son nouveau maître, c'est-à-dire le directeur de la prison, lui donne la responsabilité sur toute la prison et sur tous les prisonniers. C'est en cela que Joseph est la figure du Messie. Notre Seigneur, nous dit saint Paul, s'est fait esclave par son incarnation. Lui, qui était Dieu, a pris la forme d'un esclave par son incarnation. Il est vendu par ses frères, mais il se fait obéissant jusqu'à la mort de la croix, et c'est pourquoi Dieu l'élève et lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous voyons effectivement notre Seigneur, durant toute sa vie mortelle, régner sur les cœurs par sa bonté, régner sur les intelligences par la vérité divine qu'il leur révèle, et lorsque le monde cherche à lui mettre la main dessus, notre Seigneur abandonne son manteau, c'est-à-dire son corps, qui est comme un manteau pour sa divinité. Il leur laisse sa chair mortelle sur la croix, et c'est alors que Dieu l'élève au plus haut point, et que, de même que Joseph va devenir vice-roi d'Égypte, c'est-à-dire siégé presque à la droite de Pharaon, notre Seigneur monte au ciel et siège à la droite de Dieu le Père. Pourquoi cela? Comme pour Joseph, pour sauver ses frères. Non seulement ses frères, mais également les Égyptiens, c'est-à-dire les habitants du royaume du démon. Maintenant que nous avons vu que Joseph est vraiment une figure du Christ, c'est-à-dire qu'il reproduit le Christ par avance, on pourrait dire qu'il le suit par avance, voyons en quoi Joseph est pour nous un modèle. Et dans ces passages de l'Écriture sainte, deux vertus de Joseph sont mises en avant, tout d'abord sa soumission et deuxièmement sa chasteté. Si nous reprenons le texte de l'Écriture sainte, le voici, Joseph se donna tout entier au service de son maître. Tout entier, pas un peu, pas à moitié, pas en rechignant, ni à reculons, non tout entier. C'est-à-dire qu'il accepte sa nouvelle condition d'esclave. Elle lui est imposée par la Providence, et non seulement il va accepter, mais il va mettre en œuvre toute sa vertu pour être un bon esclave. Et son maître va constater que Dieu est avec Joseph. Qu'est-ce à dire que Dieu est avec Joseph? C'est-à-dire que Joseph est vertueux. Dieu, par exemple, est avec Moïse lorsque celui-ci étend son bâton et que la mer Rouge s'ouvre en deux. Mais Dieu est bien plus avec Moïse lorsque celui-ci prie et intercède pour le salut du peuple. De même, Dieu est avec Joseph, non pas parce qu'il lui donne de faire des choses extraordinaires que son maître reconnaîtrait, mais parce qu'il vit en lui et nourrit en lui la vertu, et c'est cela que son maître reconnaît. Et comme il voit la vertu de Joseph, il lui fait confiance. Et c'est la même chose en prison. Dieu de nouveau est avec Joseph, c'est-à-dire que de nouveau, le chef de la prison reconnaît en Joseph une vertu qui ne peut venir que de Dieu, et c'est pourquoi il lui fait confiance. Mais bien, chers frères, nous sommes tous, toujours, à toutes les époques de l'histoire de l'Église, dans la situation de Joseph. Nous avons tous, toujours, des épreuves qui limitent notre indépendance, notre autonomie. Je ne dis pas notre liberté, parce que la liberté est intérieure, et que les épreuves ne nous limitent qu'à l'extérieur, mais elles ne limitent pas le cœur, elles ne limitent pas la foi, au contraire. Et nous devons accepter ces épreuves comme venant de Dieu, et nous devons, dans les épreuves, nous donner tout entier au service de notre Maître. Je vais vous donner un exemple. Je viens de lire un récit extraordinaire d'un prêtre curé de paroisse en Poméranie, c'est-à-dire dans la Prusse orientale, qui territoire qui appartenait à l'Allemagne jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui va être envahi par les Russes lorsque l'Allemagne est écrasée, et les Russes communistes, qui sont des vrais démons, écrasent tout, pillent tout, brûlent toutes les maisons, violent quasiment toutes les femmes. C'est une véritable désolation. Mais Dieu est avec ce curé de paroisse, ce jeune curé qui a 33 ans, et le curé va faire le tour de toutes les fermes. Il va confesser, donner la communion, et il va enterrer les morts. Pourquoi ? Parce que Dieu est avec lui. Parce qu'en lisant ce récit, cela nous paraît normal qu'un curé de paroisse se donne du mal pour confesser, pour donner la communion, pour enterrer les morts. Mais il faut bien reconnaître que c'est quand même quelque chose de divin, une telle action. Et je ne sais pas si nous serions nombreux, hélas, dans les mêmes conditions, à nous dévouer avec autant de générosité, de charité, parce que c'est de la vraie charité qui vient de Dieu. Ce prêtre arrive dans une ferme, là encore il y a des morts à enterrer, et la femme demande de l'aide à sa voisine. Le curé est tout surpris de voir la voisine se dévouer avec ardeur, générosité, bonté à creuser la tombe des membres de la famille de sa voisine, le mari de sa voisine, je crois. Parce que les deux femmes ne s'entendaient pas très bien. Non pas qu'elles fussent méchantes l'une envers l'autre, c'était des bonnes chrétiennes, mais elles n'avaient pas du tout le même caractère, et c'était souvent les disputes. Le curé apprend pourquoi les deux femmes sont maintenant si profondément réconciliées. C'est que, après le passage des hordes russes, la première n'avait plus que deux pains, plus aucune farine, et elle s'apprêtait à se rendre chez sa voisine pour lui demander si elle n'aurait pas un peu de farine pour faire du pain. La voisine, elle, n'avait pas de pain, elle n'en avait plus du tout. Elle ignorait la situation de la première femme, et elle se rend chez sa voisine pour lui demander du pain. La première lui dit « Ah, vous tombez bien, il m'en reste deux, prenez-en un, je garde l'autre. » Après ça, que se passera-t-il? On peut craindre tout simplement que chacune ayant mangé son pain, et les familles ayant mangé ce pain, elles n'auront plus qu'à mourir. Mais se produit quelque chose de presque miraculeux. Un colonel de l'armée rouge passe dans cette ferme, en voit l'état lamentable, et il dit « ce sont les nazis qui vous ont fait ça ». Et la femme répond « non, colonel, ce sont vos troupes ». Alors le colonel ne dit rien, il s'en va, et une heure après, il revient avec un sac de farine, un sac de sucre, et un sac d'autre chose, je ne me rappelle plus quoi. Alors je vous pose la question, mes bien chers frères, quand Dieu était-il le plus avec cette femme? Quand elle donna un de ses deux seuls pains, ou bien quand le colonel lui apporta miraculeusement de la farine? Il est évident que Dieu était avec cette femme lorsqu'elle donna le pain. Ça, c'est une action divine. Cela, c'est une action vertueuse. C'est là que le Christ règne. Au milieu de cette atmosphère démoniaque, le Christ a gardé la souveraineté, la royauté sur les cœurs des chrétiens. Il s'est réservé un petit bout de territoire sur lequel il règne par la charité, malgré le caractère démoniaque de l'armée rouge. Vous voyez, mes bien chers frères, quand nous lisons le récit de l'histoire de Joseph, n'allons pas croire que Dieu était avec Joseph de façon quasi miraculeuse, parce que alors nous nous dirions « oui, il n'est pas du tout certain que Dieu veuille faire un miracle pour moi ». Pourquoi ces femmes ont-elles été vertueuses? Elles furent vertueuses pour être vertueuses. Elles furent bonnes pour être bonnes. Elles furent bonnes et charitables pour être fidèles à Dieu. On est fidèle à Dieu pour être fidèle à Dieu. Il n'y a pas d'autre raison d'être fidèle à Dieu. Et c'est cela le règne de Dieu sur les cœurs. Et c'est ça le règne de Dieu sur les familles. Et c'est ça le règne de Dieu sur les villages. Elles n'ont pas été vertueuses en se disant « Ah, si je fais la charité, un colonel viendra me donner du pain et de la farine. » Eh bien, mes bien chers frères, c'est cela qui nous est demandé à nous aussi. Et cette fidélité de Joseph à la vertu va particulièrement briller lors de la tentation par la femme de son maître. Il fait une réponse magnifique à cette femme. Il lui dit « Mon maître me fait confiance, il m'a tout remis entre les mains, il ne s'est gardé pour soi-même que vous, sa femme, comment pourrais-je, moi, le trahir ?» Il ne fait pas de calcul, il est fidèle. Mais bien, chers frères, à nous aussi, Dieu demande d'être fidèles. Il nous a tout remis entre les mains. Il nous a remis le monde entier. Il a remis le monde à Adam et à tous ses successeurs pour cultiver la terre, pour croître et se multiplier et la dominer. Il s'est réservé notre âme pour y régner. Comment pourrions-nous le trahir? Il nous demande de ne pas le trahir avec une hiérarchie de l'Église adultère. Il nous demande de ne pas nous laisser acheter par l'argent du monde. Ne nous y trompons pas, mes bien chers frères. Bien entendu, Dieu était avec Mgr Lefebvre. Et grâce à cela, Mgr Lefebvre nous a donné des évêques. Mais réfléchissons un peu. Pourquoi et comment Dieu était avec Mgr Lefebvre? Dieu était avec lui d'abord par l'excellente éducation qu'il reçut de sa sainte mère et de son saint père. Mais si Monseigneur n'avait pas été fidèle à cette éducation, Dieu n'aurait pas été avec lui. Et grâce à cette fidélité, Monseigneur Lefebvre entre au séminaire, puis, à l'appel de son frère, il se fait missionnaire. Et parce que, en mission, Dieu est avec lui, c'est-à-dire que Monseigneur fait fructifier tous les dons de bonté, de charité, de foi, d'espérance, de justice que Dieu lui a donné, et qu'il nous donne à nous tous, c'est exprès que je n'ai pas énuméré dans les dons, le don d'organisation, le sens pratique et des choses comme ça qui sont données plus ou moins à chacun. Non, je parle de la fidélité à la charité qui est donnée à tout le monde, de la fidélité à la foi qui est donnée à tout le monde, de la fidélité à l'espérance, de la fidélité à la justice. C'est parce que Mgr Lefebvre était fidèle à cela qu'il a été choisi pour devenir évêque. Et parce que dans sa charge d'évêque, il a été particulièrement fidèle à défendre la foi, Dieu était encore avec lui. Et parce que Dieu était avec lui, Mgr Lefebvre a été un phare pour nous. Mais imaginez que Mgr Lefebvre n'ait pas été vertueux et qu'il nous ait malgré tout donné des évêques. Il aurait pu nous en donner tant qu'il l'ait voulu. Si Mgr Lefebvre n'avait pas été vertueux, non seulement il n'aurait pas fait avancer le règne de Dieu, mais comme plein d'autres, au contraire, il l'aurait fait reculer. Et de même pour nous, ceux qui ont compris que Dieu était avec Mgr Lefebvre malgré toutes les persécutions du monde, ceux qui ont compris que Dieu était avec lui malgré toutes les condamnations, ceux-là, parce qu'ils ont suivi Mgr Lefebvre, qu'ils ont été fidèles à Dieu, on peut dire que Dieu était avec eux, et ils ont profité des évêques donnés par Mgr Lefebvre, et ils ont profité de la foi donnée par lui. Mais si nous n'avions pas été fidèles à ce que Dieu nous donnait à travers lui, nous aurions pu avoir les meilleurs évêques du monde, cela n'aurait pas fait avancer le royaume de Dieu dans nos cœurs, ni autour de nous. C'était vrai du temps de Mgr Lefebvre, ça l'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, le monde est adultère. Aujourd'hui encore, le pape est adultère car il trahit la Très Sainte Vierge avec le culte de la Pachamama. Alors, laissons-lui notre manteau entre les mains et fuyant comme cela, même si nous sommes nus, Saint Césaire d'Arles fait remarquer que Joseph, sans manteau, bien que nu, était plus couvert qu'Adam lorsqu'il avait un manteau. Parce que Adam était dépouillé de la vertu de chasteté qui couvre notre corps, tandis que Joseph, dépouillé du manteau, était couvert par la chasteté qui couvre le corps. Alors laissons notre manteau entre les mains des adultères, et même si nous sommes nus, nous serons fidèles et Dieu sera avec nous. Et non seulement Dieu est avec nous, mais grâce à cela, il règne. Au milieu de ce monde de ténèbres, Dieu règne dans les cœurs qui sont fidèles. Dieu règne dans les familles qui lui sont fidèles. Dieu règne parmi les amis qui lui sont fidèles. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons eu Mgr Williamson, qui justement, parce qu'il était vertueux, Dieu était encore avec lui. Et l'histoire ira se répétant. À nous de discerner que Dieu n'est pas avec les puissants, il est avec ceux qui vivent de la foi, de l'espérance et de la charité. Quant au résultat, il est dans l'Évangile. Si nous sommes fidèles aux petites choses que Dieu nous confie, alors il nous donnera le gouvernement d'autant de villes. Celui qui a cultivé les 10 mines, les 10 pièces d'argent que Dieu lui avait données, reçoit le gouvernement de 10 villes. Mais celui qui n'a pas su être fidèle et pas cultiver la vertu que Dieu lui avait donnée, on lui prendra, on lui a pris même ce qu'il avait. Ce n'est pas d'un seul coup qu'on est capable de donner un des 2 seuls pains qui restent et de mourir de faim ensuite. Cela suppose une longue préparation dans la vertu. De même, refuser les avances du monde, cela suppose une longue et fidèle soumission aux épreuves que Dieu nous envoie, de nous donner tout entier au service de notre Maître. C'est alors que nous vaincrons le monde, comme le Saint-Esprit nous l'a promis par la bouche de Saint Jean. Nous vaincrons le monde par notre foi, c'est-à-dire par notre fidélité à Dieu et à Jésus-Christ. Ô Marie Vierge fidèle, priez pour nous qui avons recours à vous.